débarque au Japon au milieu du 19e siècle, les prêtres des missions étrangères de Paris découvrent une communauté chrétienne totalement coupée du reste de la chrétienté depuis plus de deux siècles, mais une communauté qui a préservé tant bien que mal la foi et les rites transmis par les tout premiers missionnaires jésuites et franciscains au XVIe siècle. C'est à cette communauté chrétienne japonaise que nous allons consacrer ces entretiens avec vous, Sylvie Morishita. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour évoquer un sujet qui vous passionne, que vous connaissez bien. Vous êtes historienne de l'art, mais vous vous intéressez donc de très près à cette communauté chrétienne du Japon. J'aimerais tout d'abord savoir à partir de quels éléments vous travaillez, sur quelles sources? Parce que là, j'ai déjà cité les pères des missions étrangères de Paris, dont les archives sont importantes. Est-ce que c'est votre essentielle source de documentation?
J'ai utilisé les archives des missions étrangères de Paris pour les travaux que j'ai faits sur la chrétienté de Nagasaki au XIXe siècle. Là, les archives des pères des maîtres, c'est-à-dire les lettres qu'ils ont envoyées, sont les sources de première main. Mais actuellement, je travaille sur l'art des missions catholiques au Japon au XVIe siècle. Donc, c'est complètement différent. J'utilise principalement les sources des jésuites.
Alors, Sylvie Morishita, les jésuites, évidemment, sont le vecteur par lequel il faut aborder cette question de l'évangélisation du Japon au XVIe siècle, puisque ce sont les compagnons d'Ignace de Loyola, et en particulier François-Xavier, qui sont parmi les précurseurs.
Tout à fait, c'est François-Xavier qui, le premier, arrive au Japon en 1549 avec deux autres compagnons jésuites. Le Japon est connu des Portugais qui sont, il faut le dire, les premiers arrivés en Extrême-Orient par la voie maritime au tout début du XVIe siècle. Ils arrivent dans les mers de Chine du Sud dans les années à peu près 1540-1550. Et c'est tout à fait par hasard que trois Portugais, mi-marchands, mi-aventuriers, vont être poussés sur les rivages japonais en 1543, l'arrivée des premiers marchands portugais qui, lorsqu'ils vont retourner vers Malacca et Goa, vont rencontrer François-Xavier, lui parler du Japon, ce qui va le décider à se lancer dans cette aventure avec donc deux autres jésuites. Et il arrive en 1549.
Goa, ça se trouve où ?
Goa, c'est une ville qui se trouve sur la côte ouest de l'Inde. Et Goa était importante parce que c'était la capitale de l'Empire portugais d'Asie. Quand on étudie l'histoire du christianisme au Japon au XVIe siècle, on travaille beaucoup avec les Portugais parce que les Portugais sont les premiers qui ont exploré tous les rivages africains, asiatiques. Et pour ce qui concerne la mission, c'est important, ce sont eux qui ont envoyé les jésuites. C'est le roi du Portugal qui a demandé aux jésuites de partir, d'envoyer des hommes en Extrême-Orient. Il faut savoir que à cette époque, il y a une institution qui était très importante au Portugal, qui est le Padroado Real, c'est-à-dire le patronage royal, mais en général on le laisse en portugais puisqu'en français ça n'a guère de sens. C'est cette institution par laquelle le roi était directement responsable de l'implantation de l'Église dans les territoires nouvellement découverts. Il devait donc financer les missionnaires. C'est lui qui donnait les autorisations de fondation d'églises, d'hôpitaux, etc. Il devait financer, et c'est ça, c'est un des problèmes. Le financement arrivait très peu, jamais, ou en petite quantité, ou très tard. Et donc, c'est ce qui va amener les jésuites, lorsqu'ils seront arrivés au Japon, à trouver des sources de financement. C'est important, les jésuites ne sont pas un ordre mondial. Donc, il fallait qu'ils se financent eux-mêmes, et pour ce faire, ils ont pris la décision, très risquée, de participer au commerce extrêmement fructueux que les Portugais pratiquaient entre la Chine et le Japon.
Pourquoi extrêmement risqué ?
Parce que ils ont été extrêmement critiqués pour ça. Il y avait une loi qui interdisait aux membres du clergé de s'adonner au commerce. Et donc, ils ont d'une certaine façon bravé les lois de l'Église et ils se sont arrangés avec les Portugais de Macao. Alors, Macao, c'est une ville qui se trouve maintenant à peu près à une heure de bateau de Hong Kong et ça a été la base des Portugais et des jésuites en Extrême-Orient. Et tout jésuite qui était destiné au Japon arrivait d'abord
à Macao.
Et c'est de Macao que les Portugais envoyaient tous les ans un bateau qui était chargé de soieries chinoises qui étaient très prisées des Japonais. Ils vendaient au Japon faisant de grands profits et ils repartaient les cales pleines de minerais d'argent.
Sylvie Morishita, on parle des jésuites, mais on a également déjà fait allusion aux ordres mendiants. Leur part est importante également dans l'évangélisation ou elle est plus minime ?
Elle est beaucoup plus minime. D'abord, les franciscains n'ont été qu'une vingtaine au Japon, mais il y a eu des dominicains et des augustins aussi, mais en toute petite quantité. Je crois que les augustins n'ont jamais été plus que 3 ou 4. Et tous ces ordres mendiants étaient tous espagnols. Une influence beaucoup moindre, parce qu'ils sont arrivés d'abord beaucoup plus tard. En fait, les jésuites avaient demandé qu'ils aient l'exclusivité de la mission au Japon, pour que la ligne missionnaire soit unique jusqu'à ce que l'Église soit stabilisée au Japon. Ils avaient obtenu, et du roi d'Espagne et du pape, cette exclusivité. Néanmoins, les Espagnols qui sont, depuis les années 1570, installés aux Philippines, les Espagnols des Philippines, ce n'était pas la politique de Philippe II, il faut faire la différence entre la métropole et les Philippines. Les Philippines avaient un grand désir d'expansion. En fait, quand on se penche là-dessus, on se rend compte que les Philippines n'ont été considérées par les Espagnols que comme un tremplin vers les autres pays, pour le commerce, mais aussi pour l'évangélisation. La mission de Chine et la mission du Japon ont été objet de convoitises.
À cause de l'influence que ces communautés pouvaient exercer sur les territoires où elles arrivaient ?
Le plus difficile, probablement, c'est les rivalités entre ordres religieux, qui se doublent de rivalités entre espagnols et portugais. Et ça va faire une histoire extrêmement douloureuse, parce que, par exemple, les franciscains vont manœuvrer pour essayer d'entrer au Japon en tant que diplomates envoyés par le gouverneur des Philippines, mais ils vont en fait y rester comme missionnaires, malgré l'interdiction officielle du christianisme qui avait été décrétée en 1587 par le chef militaire du Japon. Donc cette arrivée des franciscains a provoqué des rivalités terribles.
Alors le fait est, disons, que les tout premiers à christianiser le Japon, ce sont bien les jésuites.
Ce sont les jésuites.
Combien sont-ils et qui sont-ils, ces premiers jésuites qui arrivent ?
Alors, les premiers, ils sont trois, hein, François-Xavier et 2 autres Espagnols. C'est absolument passionnant de se pencher sur cette histoire. Ce sont 3 hommes qui arrivent au Japon alors que personne n'y a jamais résidé. Ils ne connaissent pas la langue. Les usages du Japon sont très, très différents. Alors, ils ont avec eux un Japonais rencontré en Asie qui a appris un peu de portugais. Comment les premiers contacts se sont faits, ça a été très, très difficile. François-Xavier ne reste qu'un peu plus de 2 ans, il reste très peu de temps. Il laisse ses deux autres compagnons qui, cas à cas, vont se débrouiller. Alors, ça va être très difficile parce que le Japon est en proie aux guerres civiles. C'est un pays où le gouvernement central, le pouvoir central est complètement effondré et ils vont devoir faire leur chemin ballotté d'un endroit à l'autre au fil des guerres et des révoltes. Donc, ça a été extrêmement difficile. Néanmoins, ils vont réussir à s'installer à Kyushu, qui est l'île sud du Japon, et très vite, ils vont s'installer à Miyako. Maintenant, on connaît cette ville sous le nom de Kyoto, c'est l'ancienne capitale impériale. Et là, ils vont réussir, dans des conditions, je répète, très très rudes, à faire quelques conversions, ce qui fait que les 2 pôles seront toujours Kyushu et Kyoto.
Sylvie Morishita, vous nous disiez donc que 2 des compagnons de François-Xavier restent au Japon, s'y installent et, tant bien que mal, arrivent à créer des petites communautés chrétiennes dans un pays dont la culture, dont la spiritualité n'ont strictement rien à voir avec celle de l'Occident et avec celle du christianisme. C'est très risqué ce qu'ils font.
Pour leur vie, non. Pas au début. C'est rude.
Pourquoi c'est rude ?
Parce que la langue, ils ignorent complètement la langue, les usages, c'est un pays en proie aux guerres civiles. Ils vont quand même viser, mais ça c'est toujours la façon de faire des jésuites, Saint Ignace leur demandait de viser les élites sociales.
Parce que le Japon à ce moment-là s'organise comment ? La société japonaise,
oui, alors,
elle a des classes ?
Ah oui, très, très marquées. Grosso modo, 2 classes, pour faire très vite et très court. La classe des guerriers. Et c'est eux qui dirigent le Japon à cette époque-là. C'est pas la noblesse de cour.
Ce sont ce qu'on appelle les shoguns.
Alors, le shogun, c'est un titre que reçoivent les chefs militaires qui prennent le pouvoir total au Japon. Les shoguns, il n'y en a pas au XVIe siècle. À cette époque-là, non. C'est à partir de 1600. on appelle en français, on a francisé sous le nom de shogunat. C'est toute cette famille des Tokugawa qui vont diriger de main de fer le Japon. À cette époque-là, le pouvoir central étant complètement délité, les daimyo, c'est ça ce qu'on appelle les grands chefs seigneuriaux, les grands seigneurs féodaux, sont à couteau tirés les uns envers les autres pour agrandir leur territoire au détriment des autres. En fait, les jésuites vont trouver le moyen de tirer profit de cette situation. C'est-à-dire qu'ils vont finir par comprendre qu'il n'y a pas de pouvoir central, il faut faire des affaires avec chaque seigneur. Et c'est à double tranchant. Parce que au sud, les seigneurs vont faire très bon accueil aux jésuites quand ils auront compris que les jésuites sont en fait très proches des marchands portugais. Ils ne peuvent pas faire sans les marchands. C'est les marchands qui les transportent, qui leur apportent tous les ans lorsqu'ils viennent au Japon tout ce dont ils ont besoin, le courrier, l'huile d'olive, ils demandent ça dans leur lettre par exemple, et les ornements dont ils ont besoin pour la liturgie, etc. Donc lorsque les grands seigneurs vont comprendre le lien entre les jésuites, les missionnaires et les marchands, ils vont faire bon accueil aux missionnaires pour obtenir que les marchands viennent sur leur territoire. C'est à double tranchant parce que il y a des jésuites qui diront mais les conversions ne sont pas sincères puisque si les grands daimyo, les grands seigneurs se convertissent, c'est pour obtenir le commerce et très souvent la population se convertit pour obéir aux ordres du daimyo. C'est pas toujours exact mais...
Vous avez parlé de deux classes, donc la classe des guerriers et l'autre classe
la classe des paysans. Tous ces gens qui travaillent très très dur, la paysannerie a souvent été écrasée par la classe des guerriers. C'est eux qui produisent le riz. Le riz est en fait la façon dans laquelle on paye les impôts au Japon. Et la richesse d'un homme est évaluée en koku de riz, en boisseau de riz. Donc, c'est cette classe paysanne qui est si écrasée par les seigneurs, qui va aussi rencontrer les jésuites. Et c'est dans cette classe paysanne qu'il y aura énormément de conversions à Kyushu, donc l'île sud. Et c'est dans cette classe paysanne, très simple, que le christianisme va se transmettre pendant 250 ans dans le plus grand secret.
Avant d'en arriver là, ces conversions, donc, elles se font autour de petites communautés. Ces premiers jésuites, qu'est-ce qu'ils font? Ils baptisent des chapelles. On les situe, on sait qui ils sont.
Oui, parce que
ils sont reconnaissables.
Oui, parce que ils obtiennent toujours le droit de s'implanter de la part du daimyo. C'est leur politique de viser la tête, l'élite sociale, et de demander la permission de s'installer et de prêcher. Alors certains daimyo vont leur donner cette autorisation, même s'ils n'ont pas du tout l'intention, eux personnellement, de se convertir. Donc c'est une façon qu'ils vont user à Kyushu, demander la permission des daimyo. Et une autre façon, c'est d'entrer en débat avec les bonzes. Parce que forcément, les bonzes, c'est-à-dire les moines bouddhistes...
En débat théologique?
Oui. De grands débats théologiques, parce que les bonzes, forcément, vont pas faire bon accueil à ces missionnaires qui sont des concurrents pour eux. Et il y aura de grands débats théologiques. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment ont pu évoluer ces débats, puisque quelle était la langue? En fait, les gens qui ont débattu, et ça c'est un point très important de la mission des jésuites au Japon, c'était des Japonais convertis, qui connaissaient très très bien la théologie catholique et qui étaient doués pour la parole et la prédication et pour la polémique. Pourquoi je dis que c'est un point important? Parce que c'est une des caractéristiques de la mission jésuite au XVIe siècle. Ils vont accueillir dans leur rang des Japonais qui vont devenir jésuites. Alors pas prêtres dans un premier temps, frères. Coadjuteur
religieux.
Mais les historiens qui ont beaucoup étudié ça disent que la caractéristique du Japon, c'est d'avoir un visage local. À la fin du XVIe siècle, il y a plus de jésuites japonais que portugais.
À la fin du XVIe?
Oui.
Ça veut dire que les conversions ont quand même été très nombreuses.
300 000. Il y avait 300 000 convertis au début du XVIIe siècle.
RCF, Véronique Alzieu.
Sylvie Morishita, la culture japonaise est un monde. Elle est dense, elle est très ancienne, elle est passionnante. Ces jésuites européens qui débarquent là, est-ce qu'ils sont fascinés par ce qu'ils découvrent, par la finesse et le raffinement aussi de cette culture?
Oui, très vite, très vite. Et c'est dans les années 1555-6, un jésuite va écrire un traité que l'on a gardé, un traité sur les religions japonaises. Ces jésuites sont des hommes qui sont issus des meilleures universités européennes. Ils ont un très haut niveau de formation. Donc, lorsqu'ils arrivent au Japon, tout de suite, ils vont commencer à étudier le Japon, à l'analyser. Et ils vont vraiment écrire tout un traité sur les religions japonaises. Et c'est le premier traité écrit dans une langue étrangère sur les religions japonaises. Et ils font déjà, quelques années après l'arrivée de François-Xavier, la distinction entre les deux grandes religions japonaises. C'était le bouddhisme, qui a été importé de Chine et de Corée, et le shintoïsme, qui est la religion originelle du Japon, font tout à fait la distinction. Donc oui, ils vont tout de suite essayer d'analyser, de comprendre, de s'adapter. Très vite, ils parlent par exemple du cha, et cha, c'est le thé en japonais. Donc ils analysent le rite du thé, ce que l'on appelle d'ailleurs improprement la cérémonie du thé. Ils comprennent tellement l'importance du thé que dans leur maison, dans leur résidence, même si elles sont toutes petites au début, il y aura un domestique, on va dire, qui est chargé de toujours préparer le thé et de l'offrir aux visiteurs dès qu'ils arrivent, parce que c'était les rites japonais.
Donc ils se fondent dans cette culture en partie.
Ah oui, complètement. Complètement, ils s'adaptent, ils disent aussi loin que l'évangile le permette.
Il y a déjà un souci de ce qu'on appellera plus tard l'inculturation.
Oui, le mot n'existe pas au XVIe siècle, mais ils ont pratiqué l'inculturation. Ils vont apprendre complètement le japonais, alors plus ou moins selon les compétences des uns et des autres. Mais pour vous donner un exemple, ce sont les jésuites qui ont écrit les premiers dictionnaires japonais portugais, par exemple. Et c'est un livre absolument extraordinaire qui a été publié au XXe siècle. Mais il y a un jeune portugais, il faut dire son nom, João Rodrigues, il est arrivé, il était tout gamin, il avait 16 ans. Les Portugais envoyaient à bord de leur bateau des garçons qui étaient sans doute orphelins. Et celui-ci est arrivé à Goa, ensuite à Canton, et il est arrivé jusqu'au Japon. Il a décidé de devenir jésuite, il devait avoir 18 ans. Mais comme il est arrivé au Japon, il avait 16-18 ans, il a appris la langue sans difficulté et il est devenu un excellent linguiste. Et c'est très intéressant, parce que comme il a écrit ce dictionnaire au tout début du XVIIe siècle, les linguistes japonais utilisent son dictionnaire. Parce que,
aujourd'hui encore ?
Oui, parce que notre alphabet latin permet de transcrire la prononciation des mots. Or, les Japonais n'ont jamais beaucoup étudié, ils ont beaucoup étudié leur langue littéraire classique, mais leur langue orale, parlée quotidienne, a été beaucoup moins étudiée. Et une des seules sources dont on peut, avec laquelle on peut connaître, par exemple, la langue du XVIe siècle, c'est ce dictionnaire de João Rodrigues.
Un mot peut-être sur ce que les jésuites apportent, eux, aux Japonais, et qui, on a parlé du commerce, mais il y a certainement bien d'autres choses.
Alors, ils ont apporté les armes à feu. Parce que les premiers Portugais qui arrivent au Japon avaient des armes à feu, qui ont fasciné les Japonais. Ils ont apporté, oui, le commerce, mais ils ont apporté aussi des tas de notions technologiques et intellectuelles importantes. C'est eux, par exemple, qui ont introduit la presse d'imprimerie, que le Japon ne connaissait pas, et les gravures sur cuivre, la technique de gravure sur cuivre, le Japon ignorait. Ils vont introduire aussi la chirurgie, que les Japonais ne connaissaient pas. La peinture à l'huile, ça c'est ce que j'ai étudié. Les techniques de peinture européennes vont être introduites par les jésuites dans leurs écoles, parce que comme partout ailleurs dans le monde, ils ont formé des écoles de très très haut niveau.
Destinées à qui ces écoles ?
Destinées aux jeunes Japonais, en particulier aux fils de la noblesse, des guerriers.
Convertis au christianisme ?
Oui. Autant qu'on le sache, oui, c'était forcément des écoles pour les enfants des convertis, puisqu'on y enseignait tout ce qui était culture européenne, mais la culture japonaise également, et forcément la théologie.
Sylvie Morishita, tel qu'on l'a évoqué jusqu'à présent, on a un peu l'impression que cette arrivée des chrétiens, des jésuites au Japon avec la volonté quand même de convertir autant que possible les autochtones se passe à merveille, qu'il y a un échange de connaissances, de techniques, de savoir-faire.
Ah oui, ça, je pense que c'est vrai. Il y a eu vraiment la rencontre entre des gens de civilisations complètement différentes. Ça, oui.
Avec une exigence intellectuelle aussi très forte.
Oui. Et François-Xavier avait déjà remarqué que beaucoup de Japonais savaient lire et écrire, ce qui n'était pas forcément le cas en Europe. Et ils avaient remarqué le très haut niveau intellectuel des Japonais. Ils font beaucoup de compliments du niveau des Japonais. Oui.
Alors, qu'est-ce qui fait que ça se gâte à un moment donné ?
Parce que au cours du XVIe siècle, l'état de guerre civile qui règne au Japon va se réduire. Et parmi les guerres entre grands seigneurs, quelques-uns vont finir par prendre le pouvoir. Et lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils veulent fonder un état qui leur obéisse totalement. Le pouvoir qui se met en place au moment de la réunification du Japon, c'est quand même un pouvoir à tendance totalitariste. Et très vite, les missionnaires chrétiens vont être considérés comme dangereux, parce que n'entrant pas dans le moule qui est en train de se créer. La première interdiction est publiée en 1587 par le chef militaire qui s'appelle Toyotomi Hideyoshi. Pour des raisons mal élucidées, il commence à vieillir et plus il vieillit, plus il est coléreux et ses réactions imprévisibles. Il s'est mis dans une furie terrible et il a interdit...
Contre les chrétiens.
Contre les chrétiens. Un historien japonais a dit que c'est un signal envoyé aux grands guerriers devenus chrétiens, qu'il ne va pas tolérer...
Les convertis, donc.
Les grands convertis, les grands guerriers, les grands chefs militaires. Ça, il y en a un qui est dépouillé à ce moment-là, c'est Takayama Ukon. Et il se peut qu'on entende parler de Takayama Ukon bientôt, parce que sa cause de béatification a été introduite. Et je pense que le procès avance et que le résultat devrait être publié bientôt. C'était un grand seigneur et par fidélité à sa foi catholique, il va accepter d'être exilé, dépouillé, alors qu'il aurait pu prétendre à de très très hautes fonctions au Japon. Donc il est exilé et dépouillé en 1587. Donc à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin, officiellement le christianisme est interdit.
Avec un épisode tragique et très connu, celui des 26 martyrs de Nagasaki, alors qu'il intervient plus tard, en 1597, Nagasaki, d'abord, il faut en dire un mot, parce que c'est quand même considéré comme le cœur chrétien du Japon.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que d'abord, Nagasaki a été fondée en tant que ville chrétienne. Ça a été fondé à partir de 1570 par un accord commun entre trois parties. Le daimyo, c'est-à-dire le seigneur de cette région, qui est le premier seigneur qui demande le baptême, donc il est chrétien. Et puis les marchands portugais et forcément les jésuites qui ont eu leur mot à dire. Les trois avaient intérêt à avoir une base fixe au Japon qui serve de port d'attache aux Portugais lorsqu'ils venaient. On a parlé de ce commerce très fructueux auquel les Portugais se livraient à partir de Macao, mais lorsqu'ils arrivaient jusque dans les années 1570, ils ancraient leurs bateaux là où ils pouvaient, à l'ouest de Kyushu. Donc il y a eu plusieurs petits ports qui ont été utilisés, mais ils voulaient trouver une base fixe. Et comme Omura Sumitada, c'est le nom de ce daimyo, était devenu chrétien, c'était son avantage aussi à ce que les Portugais viennent sur ces terres. Les jésuites ont eu leur mot à dire parce que eux aussi, ils étaient sans domicile fixe d'une certaine façon. Donc les trois parties se sont entendues. Pour fonder cette ville. C'était un petit port où il y avait quelques baraques de pêcheurs et c'est tout avant. Et c'est un pilote portugais du bateau de Macao qui va sonder la côte et qui va faire le choix de cette rade extrêmement bien abritée qui va devenir donc une ville chrétienne et un port international.
Thank you.
de l'histoire.
Nagasaki, donc, Sylvie Morishita, disons base chrétienne du Japon au XVIe siècle. Encore aujourd'hui, traditionnellement, cette ville est très associée à ces années-là.
Ah oui, et c'est toujours la ville la plus catholique du Japon.
Et donc, pour relier à ce que nous disions juste auparavant, c'est aussi là qu'en 1597 sont martyrisés 26 chrétiens, ils sont crucifiés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Un galion espagnol qui venait de Manille et qui faisait la route vers le Mexique, à cause d'un typhon, s'est échoué sur les côtes japonaises de l'île de Shikoku. Et toute la cargaison a été récupérée par les Japonais. On pense que c'est une manœuvre de Hideyoshi, le chef militaire. Il avait besoin de renflouer ses caisses à ce moment-là. Comme il y avait parmi les passagers des franciscains, il y a eu tout un imbroglio, tout le monde a manipulé dans de telles façons jusqu'à ce que Hideyoshi se fâche et arbitrairement demande que les chrétiens auxquels il avait interdit de prêcher au Japon soient crucifiés. Alors on a rassemblé au hasard certaines personnes, alors il y a 23 franciscains et 3 jésuites. Et ils vont être arrêtés à Kyoto et envoyés à marche forcée vers Nagasaki où ils seront crucifiés le 5 février.
Tous occidentaux ou il y a aussi des Japonais ?
Non, il y a des Japonais. Il y a plusieurs franciscains mexicains, enfin espagnols mexicains, et le reste sont des Japonais. Des enfants, 3 petits garçons qui avaient 12-14 ans.
C'est le début ou la fin de quelque chose ?
À partir de ce moment-là, les missionnaires comprendront, du moins les jésuites vont comprendre, que leur situation est très dangereuse, puisque officiellement, on les tolère, mais ils comprennent aussi que le moindre événement peut faire basculer les choses vers la catastrophe.
Et c'est ce qui arrive ?
C'est ce qui arrive.
Une interdiction totale ?
En 1614. En 1614, pourtant, au début du XVIIe siècle, les choses sont plutôt...
Il y a une accalmie, non ?
Il y a une accalmie, le commerce marche très bien, mais il y a quand même des changements. En 1600, et 1600 est l'année où beaucoup de choses changent. Premièrement, c'est la grande bataille de Sekigahara qui met fin aux dernières guerres civiles. Et cette bataille est remportée par le clan Tokugawa qui élimine en fait le clan Toyotomi qui pouvait prétendre au pouvoir total. Et donc c'est le clan Tokugawa qui gagne. Et c'est cet homme Tokugawa Ieyasu qui va être nommé shogun juste après. Et le pouvoir va rester dans la famille des shoguns jusqu'en 1868. Donc c'est lui qui va récupérer en fait tous les efforts qui auront été faits pour arrêter les guerres civiles, centraliser le Japon et régner au Japon avec une poigne de fer. C'est quand même un état policier qui se met en place. Donc ça, c'est la première chose. Là, les jésuites ont affaire à un pouvoir centralisé. Et plus rien ne dépend des daimyo, des seigneurs, mais tout du shogun. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, à partir de 1600, des rivaux arrivent. Les rivaux, ce sont les Hollandais, les marchands hollandais qui vont réussir à trouver le chemin jusqu'au Japon avec la ferme intention d'éliminer les Ibériques. De toutes les routes commerciales.
Est-ce que le fait que les Hollandais soient protestants pèse là-dedans, a une importance ?
Énormément. Énormément, parce qu'on sait très bien que les Hollandais vont pousser les Japonais sur la pente d'une plus grande méfiance vis-à-vis du christianisme. Ils vont forcer...
Du catholicisme ?
Oui, oui, du catholicisme, oui. Et on sait très bien qu'il y a eu, par exemple, des projets d'alliance entre les Hollandais et les Japonais pour envahir certains pays d'Asie. On ne sait pas du tout ça. Il y a eu vraiment une alliance. Alors petit à petit, les Espagnols vont être éliminés. Les Anglais vont jamais, ils vont essayer, mais ils vont jamais réussir à s'implanter durablement. Et puis, ce qui va vraiment mettre fin à la présence des missionnaires et des Portugais, c'est une grande révolte qui aura lieu dans la région de Nagasaki dans les années 1637. Alors que le christianisme est déjà interdit depuis 1614, il y a une grande révolte populaire. En fait, c'est une jacquerie, mais tous ces paysans, en fait, sont chrétiens. Et c'est une immense révolte que le gouvernement japonais aura énormément de mal à mater. Et ils vont avoir vraiment peur. Ils vont vraiment s'imaginer qu'ils pourraient être envahis de l'extérieur. Et donc, à ce moment-là, ils interdisent complètement le commerce avec les Portugais en 1639.
Quand on parle de persécution, le mot n'est pas trop fort ? on assiste vraiment à des persécutions vis-à-vis des chrétiens?
Ah oui, à partir de 1614, où tombe le premier édit publié par Tokugawa Ieyasu, donc le shogun, ah oui, ce sont de terribles persécutions, parmi les plus violentes que les chrétiens aient eu à endurer. Tous les ordres religieux vont être touchés, beaucoup de chrétiens japonais vont être martyrisés, principalement à Nagasaki, mais il y en aura aussi à Tokyo et à Kyoto. Et ce sont des milliers de gens qui vont être persécutés. Cette révolte de Shimabara, donc en 1637, on compte 37 000 victimes, toutes passées au fil de l'épée et brûlées. Les archéologues retrouvent des cendres sur 15 cm. 37 000 personnes passées au fil de l'épée, hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde sans faire de distinction. Rien que là. Donc c'est peut-être 40 000 personnes, même plus, qui ont dû mourir à cause de la foi au Japon.
Donc dans un laps de temps qui va de 1614 à...
De 1614, mais même avant, il y avait eu des persécutions sporadiques. Jusque dans les années 1640-1650, il y en aura encore. Le gros des persécutions, c'est entre 1640 et 1637.
Sylvie Morishita, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces persécutions qu'ont subies les chrétiens au XVIIe siècle au Japon. Pourquoi sont-ils massacrés ?
Les chrétiens japonais ont été pris entre deux exigences irréconciliables. D'un côté, le gouvernement japonais exigeait d'eux l'apostasie et exigeait d'eux qu'ils rejoignent les temples bouddhistes. Le bouddhisme a été vraiment aux ordres du gouvernement. Et toute la population devait s'inscrire auprès d'un temple bouddhiste. Donc ils ont été coincés avec cette exigence du gouvernement. Et de l'autre côté, l'enseignement des missionnaires qui les poussaient au martyre. Quand on étudie les documents, les missionnaires ont placé la barre très très haute. C'est-à-dire, ils les poussaient vraiment au martyre. Et donc ils exigeaient de ne absolument rien concéder au gouvernement. Les Japonais, eux, toujours très pragmatiques, disaient on peut dire oui en apparence et puis en fait rester chrétien. Au fond, les jésuites...
Impossible.
Pour eux, non. Donc il y a eu des tas d'écrits qui faisaient l'apologie du martyr. Donc les chrétiens japonais ont reçu cet enseignement qui les a poussés à rester complètement fidèles et à accepter le martyr.
Et à fuir le double jeu que eux, avec lequel eux auraient pu s'arranger.
Dans un premier temps, parce que pendant les siècles de fermeture, ce sera différent.
On va en reparler. Les Occidentaux, il y en a encore là, à ce moment-là, quand même?
Les Occidentaux, alors les Portugais ont été admis à commercer à Nagasaki jusqu'en 1639, mais après... ils n'ont plus le droit de venir. Les Hollandais, eux, vont rester. Parce que les Hollandais calvinistes ne font absolument aucune évangélisation. Ils sont là pour le tiroir-caisse. Donc ils vont rester, mais seulement dans des conditions extrêmement sévères à Nagasaki, contrôlées par les Japonais. Les Chinois commercent également, mais tous les autres Occidentaux, alors sauf les prêtres, certains prêtres occidentaux qui vont rester camouflés pendant très longtemps en vivant dans des conditions extrêmement difficiles.
Ça veut dire que tous les lieux de culte sont démolis, sont
détruits. En 1614, tout est démoli.
Qu'est-ce qui se passe en 1641, Sylvie Morishita ?
En 1641, le Japon se ferme. C'est les suites de cette révolte dont nous avons parlé l'autre jour. Le Japon décide de complètement se fermer, c'est-à-dire de renoncer à toute relation commerciale ou diplomatique avec les autres pays.
Pourquoi ?
Alors, les raisons sont très diverses. Il y a l'idéologie du pouvoir qui est néo-confucianiste. Et en fait, les pays confucianistes ont tendance à faire ça. La Chine, la Corée l'a fait aussi. Je crois que la raison principale, il faut bien voir la nature du pouvoir politique qui se met en place à cette époque-là. C'est un pouvoir qui veut tout contrôler. Et pour être sûr de pouvoir complètement contrôler la population japonaise, on refuse, on rejette tout contact avec les étrangers, qu'ils soient marchands et forcément
religieux
missionnaires.
Et ça tient deux siècles.
Ça tient deux siècles. Tout est extrêmement bien huilé, bien organisé.
Le pays se suffit à lui-même.
Le pays se suffit à lui-même, complètement.
Dans tous les domaines.
Complètement. C'est assez étonnant pour nous, mais oui. Et ce sera même des siècles de développement commercial à l'intérieur du Japon extrêmement important. Toutes les grandes maisons, je sais pas, quand on pense à Sumitomo, etc., toutes ces grandes maisons commerciales se développent pendant la fermeture.
Il n'y a pas de famine.
Il y a des révoltes populaires quand même. Il y a des révoltes populaires. Si. Et il y a des famines récurrentes quand même. Si.
RCF, Véronique Alzieux.
Donc, nous en étions en 1641, Sylvie Morishita. Le Japon se ferme. Ça dure un peu plus de deux siècles, jusqu'en 1853, où les Américains réussissent à renouer un contact avec le Japon et à négocier de nouveau des relations.
Ils négocient, ils imposent.
Oui, c'est une négociation qui est quand même très orientée.
Oui, il faut bien voir que les Américains sont en plein développement économique. Ils envoient énormément de bateaux qui chassent la baleine. C'est l'époque de Moby Dick. Et ils cherchent des ports où ils puissent faire relâche, faire aiguade dans cette région. Et donc, le gouvernement américain va envoyer des navires de guerre qui vont remonter la baie de Tokyo, ouvrir leur bouche à feu sur Tokyo. Et c'est quand même un ultimatum. Ils exigent du Japon qu'il s'ouvre. Et les Japonais, complètement décontenancés, il faut bien voir que le Japon est resté à l'époque médiévale. On ne sait pas ce que c'est que...
C'est la féodalité, quand
C'est
même.
Toujours la féodalité au niveau technique, au niveau artisanal, culturel, je veux dire artistique, c'est très élevé, mais au niveau technologique, ils ne savent pas ce que c'est que la vapeur, par exemple les machines à vapeur, etc. Donc, ils acceptent. Ils acceptent des négociations et des traités seront signés avec les Américains et après avec tous les pays occidentaux. Au terme de ces traités, le Japon accepte les relations diplomatiques, les relations commerciales dans certains ports, dont Nagasaki et Yokohama, ce qui sera plus tard Yokohama. Et ils acceptent aussi la présence de prêtres, de religieux, enfin de ministres des cultes, on va dire, sur leur territoire. Mais...
Oui, sous condition.
Condition. C'est que jamais les ministres des cultes ne s'adresse à la population japonaise. Il faut bien voir que même dans les années 50, lorsque le Japon s'ouvre, le christianisme reste farouchement interdit à la population japonaise.
Mais alors pour qui est-ce qu'ils sont admis ces prêtres ?
Pour les besoins spirituels des occidentaux
qui
séjournent au Japon. Donc, ils n'ont le droit de s'installer que dans les ports ouverts au commerce international.
Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire.
Oui, parce que pour l'Église catholique, le Saint-Siège va envoyer des missionnaires. Et les missionnaires spécialisés dans l'évangélisation de l'Asie depuis le XVIIe siècle, ce sont des Français, ce sont les pères des missions étrangères de Paris. Donc, ils sont envoyés. Alors, ils vont séjourner d'abord au Ryukyu, donc Okinawa maintenant, et après, ils vont avoir le droit de venir jusqu'au Japon, à Yokohama. En fait, le supérieur va résider à Yokohama, mais très vite, deux prêtres vont avoir le droit de s'installer à Nagasaki.
Leur nom ?
Alors, le premier, il n'est pas très connu, c'est le père Furet, parce qu'il ne va pas rester très longtemps, mais c'est lui le premier. Et puis, il va être rejoint par quelqu'un qui est peut-être plus connu, c'est le père Bernard Thaddée Petit-Jean. Et ces deux messieurs vont très vite se mettre à faire quelque chose d'extrêmement important. Ils vont bâtir une église. Une église qui se trouve juste au-dessus du port de Nagasaki. Et la construction de cette église, dont on a fêté la construction l'année dernière à Nagasaki.
Avec l'autorisation des pouvoirs locaux, bien sûr.
La pas forcément, parce que ils construisent leur église dans les terrains donnés en concession aux étrangers. Et en fait, ces terrains relèvent de l'extraterritorialité.
Donc on ne considère pas que ces églises sont sur le territoire japonais.
Non.
Mais elles sont reconnaissables quand même, de loin.
Ah oui.
D'où l'épisode en question que vous allez nous raconter.
Oui, c'est le 17 mars 1865. Donc il y a un mois et demi que l'église est inaugurée. Le père Petit-Jean, il est midi, il est dans son église.
C'est lui qui raconte ça. Hein.
C'est lui qui raconte ça, il le raconte dans ses lettres. C'est un homme qui s'ennuie, je tiens à le préciser. Il a 36 ans, il est doué, il est énergique et il s'ennuie. Parce qu'il est prêtre et il n'a pas de paroissien. Les gens qui séjournent, ce sont des commerçants guère intéressés par l'église. Et ce jour-là, à midi, la porte s'ouvre et un groupe de Japonais vient se présenter à lui. Et ils disent « Notre cœur est comme le vôtre ». Il ne comprend pas tout de suite. Et il dit « Mais qui êtes-vous et que voulez-vous » Ils disent « Nous venons du village d'Urakami. Notre cœur est comme le vôtre. Où est la statue de Maria-sama ?» Et Maria-sama, c'est la statue de la Vierge Marie. Et là, il comprend qu'il a rencontré des chrétiens. Et ça, cet événement est extrêmement important. Je voudrais quand même souligner que ce sont les chrétiens japonais qui se présentent à lui. Parce qu'on a l'habitude de dire, et c'est comme ça que tout ça a été célébré l'année dernière à Nagasaki, la découverte des chrétiens par les missionnaires. Or, quand on se penche sur les sources, c'est pas du tout ça. Le père Petit-Jean ne connaissait pas l'existence de ces gens. C'est eux qui sont venus à lui. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient ce bâtiment où il y avait une croix. Et c'est la croix qui surmontait l'église qui leur a dit qu'il fallait aller voir. Parce que peut-être les prêtres qu'ils attendaient, parce qu'ils les attendaient depuis 250 ans, les prêtres étaient peut-être revenus. Ce qui est très intéressant, c'est que le groupe, qui était peut-être une quarantaine de personnes, était dirigé par des femmes. Et un jour j'en ai parlé avec l'archevêque de Nagasaki, je lui ai dit « Pourquoi dirigé par des femmes ?» Ça me semblait bizarre. Et il me dit tout simplement parce que c'est elle qui était courageuse. C'est elle qui disait, mais il faut aller le voir. Il faut aller lui parler. Alors, pourquoi les hommes avaient peur? Parce qu'en fait, les hommes avaient peur. 8 ans auparavant, il y avait eu une persécution. Les hommes, donc les chefs de famille, avaient été arrêtés. Certains avaient été persécutés. Certains étaient morts. Donc, les hommes avaient peur, mais pas les femmes. Et c'est elles qui se sont présentées au père Petit-Jean en disant, notre cœur est comme le vôtre.
Sylvie Morishita, vous nous avez donc raconté cette scène étonnante où un père des missions étrangères de Paris se retrouve au Japon, à Nagasaki, et voit arriver un groupe emmené par des femmes qui, manifestement, sont des chrétiens. Or, ça fait 250 ans que le christianisme est interdit au Japon et qu'on pensait qu'il n'y avait plus de chrétiens. Comment se fait-il que la foi chrétienne n'ait pas totalement disparu du territoire ? Il n'y a plus aucun prêtre, il n'y a plus aucun lieu de culte, et ceux qui se déclarent chrétiens risquent la mort.
Ah oui. D'ailleurs, il y aura une persécution dans les années qui suivront, et certains mourront. Le père Petit-Jean s'est posé, c'est les questions que vous êtes en train de vous poser, et dans ses lettres, on voit les réponses. Il cherche à comprendre, d'abord, ce qu'il leur reste de pratiques, de doctrines,
de rites.
Alors forcément, la messe a disparu, mais ils gardent un rite le dimanche. Ils ont gardé, par exemple, les calendriers catholiques. Ils se sont transmis le moyen de retrouver le calendrier catholique avec les fêtes mobiles. Par exemple, le 17 mars, les gens lui disent « Nous savons que nous sommes au 17e jour du temps de tristesse. » C'était le 17e jour du carême. Il s'était transmis des prières, ce qui est très intéressant. On voit dans les lettres du père Petit-Jean, les prières qu'ils se sont transmises, c'est le pater, l'ave, le credo et le salve regina. Les 4 prières dans les pays ibériques au XVIe siècle. Ils se sont vraiment transmis ça en japonais et en latin. Ils se sont transmis le signe de la croix, version ibérique. Parce que dans la péninsule ibérique au XVIe siècle, la formule était plus longue que dans le reste de l'Europe. On ajoutait le per signum crucis. Donc, per signum crucis, liberanos Deus noster ab inimitis nostris. Donc, libère-nous, Dieu, notre Père, de nos ennemis. Le père Petit-Jean retrouve ça et il croit que c'est un exorcisme. Et j'ai longtemps cherché ce que ça pouvait être cet exorcisme, jusqu'à ce que je comprenne que c'était la formule du signe de la croix. Ils se sont transmis ça pendant 250 ans, alors qu'ils ne comprenaient pas le latin.
Donc transmission orale.
Transmission orale. Il faut dire qu'ils avaient quand même certains écrits. Il n'y a plus aucun livre qui subsistait, mais des écrits qu'ils ont recopiés de génération en génération et qui remontaient aux jésuites. En particulier, un écrit qui remontait à l'évêque Cerquera, qui date de 1603. C'est un traité pénitentiel axé sur la pénitence non sacramentelle. Les jésuites savaient qu'un jour ou l'autre, la persécution allait venir et que les chrétiens japonais allaient se retrouver sans prêtre. Et dans tous les villages où ce texte s'est transmis, les chrétiens avaient réussi à se transmettre une foi catholique à peu près complète. Un autre point qui explique qu'ils se soient transmis cette foi, c'est qu'ils vivaient en petites communautés très soudées les uns envers les autres. Ils étaient complètement transparents à la société japonaise, mais entre eux, ils savaient par exemple leur nom de baptême, qu'ils n'utilisaient jamais dans la société. Ils étaient extrêmement soudés entre eux.
Et dans la clandestinité.
Et dans la clandestinité totale. Il faut bien voir que, même à l'époque des missionnaires au XVIe, XVIIe siècle, les missionnaires avaient toujours été en sous-nombre par rapport à la population qui se convertissait. Même à l'époque du XVIe et XVIIe siècle, les missionnaires, surtout les jésuites, avaient mis en place des communautés qui étaient dirigées par les laïcs. Et ça, c'est un facteur essentiel qui explique la transmission de la tradition catholique. C'est-à-dire que lorsque les persécutions sont arrivées, les chrétiens japonais ne se sont pas trouvés démunis. Ils étaient déjà groupés en confréries. C'était une institution qui était très très florissante dans la péninsule ibérique et les Portugais et les Jésuites ont introduit ça au Japon. Ces confréries étaient dirigées par des hommes, alors forcément tout ça c'est très masculin, mais les femmes avaient quand même
un rôle
important. Oui, elles se transmettaient les prières, elles n'étaient pas complètement exclues dans les communautés qui sont restées catholiques et qui ont admis les prêtres, parce qu'en fait il y a deux branches. Il y a des communautés qui, lorsque les prêtres sont revenus, même si elles gardaient des vestiges de catholicisme, n'ont pas accepté les prêtres. Parce qu'en fait, leur forme de vie religieuse était un syncrétisme entre des vestiges de catholicisme du XVIe siècle, des éléments de shintoïsme, de bouddhisme, de religion populaire. Et en général, ces gens qui s'étaient transmis des rites secrets n'ont pas accepté la présence des missionnaires. Et ces gens existent toujours en petit nombre, ce qu'on appelle les chrétiens cachés, les kakurekrishita en japonais, existent toujours.
Petit à petit, les religieux prennent conscience qu'il y a des chrétiens au Japon. Et puis, comment les choses évoluent après, dans les décennies qui suivent, pour aller vite ?
Immédiatement, il y aura une persécution. Parce que l'interdiction du christianisme au Japon ne sera levée qu'en 1873. Donc, les chrétiens d'Urakami, ceux qui se sont présentés au père Petit-Jean en 1865, demandent la visite des prêtres. Et très vite, les autorités japonaises vont comprendre qu'il y a des chrétiens. Et la persécution va de nouveau s'abattre sur ce village d'Urakami. Les familles vont être assemblées et dispersées, envoyées en exil dans des tas de fiefs au Japon. Certains vont être soumis à de très mauvais traitements. Il y aura des martyrs. Et cette interdiction est levée en 1873. Le gouvernement japonais admet la liberté de culte. Ils reviennent dans leur village et retrouvent les prêtres des missions étrangères de Paris. Alors à ce moment-là, le père Petit-Jean demande du renfort de Paris. Et là, les missionnaires vont arriver en beaucoup plus grand nombre et se répandre dans toute la région. Dans toute cette région, on voit de très belles églises qui ont été construites par les pères des missions étrangères de Paris à partir du 19e siècle, la fin du 19e siècle.
Une autre date qu'on ne peut pas ne pas évoquer, Sylvie Morishita, évidemment, c'est le bombardement de Nagasaki en 1945. Hiroshima avant, mais Nagasaki, on l'a dit, hein, c'est le cœur du christianisme au Japon. Comment est-ce qu'il faut interpréter cet événement?
La première chose à savoir, c'est que le 9 août 1945, lorsque le B-29 qui transporte cette horrible bombe arrive sur Nagasaki, Nagasaki est complètement bouché par les nuages. Donc, il ne voit pas, je tiens à le dire, la cible, ce n'est pas le port. Les autorités américaines avaient exigé que l'on bombarde le centre urbain. Le but était de démoraliser la population. Et il tourne 3 fois autour de Nagasaki. Il ne voit pas, il ne peut pas descendre sous les nuages. Et il dit tant pis, il repart vers le nord. Et là, à un moment, une trouée à travers les nuages.
Merci.
Et il lâche sa bombe. Sauf qu'il avait reconnu Urakami, la rivière d'Urakami. Il faut le savoir, ça. La bombe atomique explose au-dessus de Urakami. Donc, ce village, qui était catholique, d'après moi, depuis les années 1580, où avait subsisté la foi de façon extraordinaire pendant 250 ans de persécution, et c'était de là qu'était parti, donc ce groupe qui se présente au père Petit-Jean, c'est là qu'ils avaient construit eux-mêmes, en se saignant aux quatre veines, la plus grande église catholique d'Extrême-Orient, et l'épicentre de la bombe est à 400 mètres. J'ai étudié toute l'histoire de cette région depuis des années. Quand on voit leur fidélité, leur souffrance, les persécutions...
C'est les Américains qu'arrive le coup de grâce, en quelque sorte.
Et ce sont des chrétiens qui... Ils ne savaient pas, peut-être, que le quartier était catholique. Mais on se dit, et il y a des Japonais catholiques qui me l'ont dit l'année dernière, j'ai passé des heures à marcher dans tout le quartier de Urakami, en allant d'endroits, tous les endroits liés avec le catholicisme au 19e siècle. Et il m'avait tout expliqué. Il me dit, et on a reçu la bombe. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Tant de souffrance. Il faut visiter le musée de la bombe à Nagasaki pour voir la souffrance. Il y a des femmes, des gens qui se sont suicidés après. Tant de souffrance, on ne peut pas comprendre. La souffrance et la fidélité, c'est leur histoire à Nagasaki. Et il y a un personnage auquel je suis très attachée à Urakami, c'est le docteur Nagai Tarashi. Nagai était un médecin à l'hôpital de Nagasaki. C'était un converti. Il était né shintoïste, en fait. Et c'est en étudiant à Nagasaki qu'il avait rencontré les chrétiens et qu'il était devenu catholique. Le 9 août 1945, il est à l'hôpital, il va s'occuper de ses patients. Lorsque la bombe explose, il perd sa femme, qui était catholique comme lui. Les enfants avaient été mis à l'abri dans la famille loin. À partir de septembre 1945, il retourne sur les lieux où il avait vécu avec sa femme et là, il voit des insectes. Un mois après la bombe, il voit des insectes. Il dit, si les insectes peuvent vivre, moi aussi je peux vivre. Il rassemble quelques bouts de bois et il fait une espèce de cabane. Et il va vivre là jusqu'en 1953. Il meurt très vite parce qu'il a la leucémie avec ses 2 petits-enfants. Et sa maison est toujours restée intacte.
On la voit toujours ?
On la voit toujours. Chaque fois que je vais à Urakami, je vais en pèlerinage là, parce que cet homme qui était un laïc, un grand médecin, il a donné un formidable témoignage de foi à telle enseigne. Lorsqu'il y a eu cet effroyable tsunami à Sendai en 2011, on citait des écrits qu'il avait écrits après la bombe atomique, parce que lui, il avait dit « la vie doit être plus forte que la mort, il faut reconstruire notre ville, il faut reconstruire notre église, il faut planter des arbres ». Et quand vous allez à Urakami maintenant, c'est très vert. Alors, il y a beaucoup de clochers, parce que c'est vraiment le cœur catholique de Nagasaki, mais il y a beaucoup d'arbres, et c'est lui qui les avait plantés. Il a trouvé la force de donner une parole d'espérance à ses compatriotes.
Alors moi, je vais terminer peut-être avec un message exprimé le 15 janvier 2014 par le pape François aux chrétiens persécutés du Moyen-Orient, en les encourageant à prendre exemple sur cette église japonaise qui s'était repliée dans la clandestinité au XVIIe siècle, pendant près de 2 siècles et demi. C'est cette histoire extraordinaire que vous nous avez racontée, Sylvie Morishita. Un très grand merci. Je rappelle que vous êtes historienne de l'art et que votre spécialité, on l'aura compris, c'est donc l'histoire des chrétiens au Japon. Encore un très très grand merci à vous.
Merci.
Et merci à Pierre-Henri Paget qui était à la technique.